des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
Les effronter.
Avec Geneviève Petersen. Cube Radio.
Semaine de confinement commence à avoir ses effets psychologiques. D'ailleurs, ce sera l'un des sujets de notre émission aujourd'hui. Certains articles qui sont sortis qui comparent l'effet du confinement peut-être à l'effet de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on va vivre ensuite? Mais qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Il y a certaines personnes qui pourraient expérimenter des séquelles psychologiques allant de bénigne, entre guillemets, à très grave. On parle même de choc post-traumatique. On en reparlera tantôt avec un psychologue. C'est difficile d'être enfermé. C'est difficile d'être enfermé aussi en famille. Et on n'est pas tous égaux face au confinement, évidemment. Plus on est privilégié, plus nos conditions de confinement sont faciles. On va aller tout de suite écouter le point de presse journalier du premier ministre François Legault.
On va ce point de presse à Québec.
COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de la Santé publique, Dr. Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous.
Oui, bonjour tout le monde. D'abord, un immense merci à ceux qui sont inscrits hier pour faire du bénévolat. Les Québécois sont tellement généreux que, comme je m'y attendais un peu, ça a fait sauter le portail parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient être bénévoles. Mais là, on me dit que le portail est remis en place. Et puis déjà, on a 12 000 personnes là, qui ont été appareillées avec des organismes. Donc, merci beaucoup à tous les Québécois. Là. Les Québécois sont généreux et on peut être fiers de cette réponse-là. Bon, maintenant... je vous l'avais dit, au cours des derniers jours, on s'attendait à arriver dans une nouvelle étape plus critique. Vous allez le voir, les résultats le montrent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a 10 décès de plus. Donc, on est à 18 décès. Évidemment, je veux, au nom des Québécois, offrir mes sincères sympathies, condoléances aux familles, aux proches. Je sais que c'est dur. Moi-même, quand je l'ai appris ce matin, 10 décès juste dans une journée, c'est dur. Puis on avait beau m'avoir averti depuis quelques jours qu'on en viendrait là. Mais il faut continuer d'avancer puis d'essayer de justement limiter le nombre de décès pour la suite des choses. Concernant les autres chiffres, on a 2021 cas confirmés. C'est une augmentation de 392. On a 141 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 35. On a 50 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. Du côté du nombre de tests, on a augmenté le nombre de tests, mais on est en train de valider le nombre de tests qui étaient faits dans certaines régions. Donc, on va vous revenir demain avec des chiffres à jour. Mais, bon, comme vous pouvez le voir, là, on a quand même augmenté le nombre de tests, puisqu'on a plus de cas positifs. Peut-être un mot, là, parce que évidemment, quand on regarde les chiffres, on voit qu'on a plus de personnes infectées que dans les autres provinces. L'explication de la santé publique, c'est de dire, notre congé scolaire au Québec est tombé au plus mauvais moment. Donc, juste avant qu'on dise aux gens d'arrêter de voyager, nous, on a eu beaucoup de monde qui ont voyagé juste avant, là, à la dernière minute. Donc, ça affecte nos signes, nos résultats, pardon. Je veux revenir aux consignes aussi. Là. J'ai vu hier, entre autres sur les médias sociaux, que beaucoup de gens qui ont vu mon appel au bénévolat comme étant un peu contradictoire. Donc, je veux peut-être revenir et mettre ça tout ensemble. D'abord, je demande aux Québécois, le Québec est sur pause, il faut autant que possible qu'on reste tous à la maison, sauf pour donner ou pour recevoir des services essentiels. Donc, tout le monde à la maison, sauf pour aller chercher des services essentiels ou pour en donner. Donc, c'est sûr que les gens doivent sortir pour aller à l'épicerie, se chercher quelque chose à manger. C'est sûr aussi qu'on a besoin d'avoir des personnes qui donnent les services essentiels. Puis quand on parle de, par exemple, aider les personnes de 70 ans et plus à aller pour eux autres chercher à manger, bien, ça prend des bénévoles. Quand on parle d'avoir des banques alimentaires pour donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin, mais ça prend des bénévoles. Donc, le bénévolat, on ne parle pas de bénévolat social, là, de façon générale, on parle de bénévolat pour donner des services essentiels comme de nourrir tout le monde. Donc, on reste à la maison, sauf si on va chercher des services essentiels ou on donne des services essentiels. Bon, maintenant, les marches, fameuse marche, là. Je vois qu'il fait plus beau qu'un peu plus tôt ce matin, en tout cas à Québec. C'est important d'aller prendre des marches. Donc, vous pouvez aller prendre des marches, mais si vous allez prendre des marches, vous faites attention de rester à 2 mètres des autres personnes. Si vous êtes infecté par le virus, si vous avez des symptômes du virus, vous n'allez pas prendre de marche. Bon. Maintenant, il y a toute la question des voyageurs. Il faut comprendre, les gens qui reviennent, qui sont revenus d'un dernier jour, vous êtes beaucoup plus à risque que la moyenne des Québécois d'avoir le virus, donc de le donner. Donc, idéalement, vous restez à la maison. Si vous voulez absolument aller prendre une marche, je parle des gens qui viennent de voyager, mais c'est encore plus important pour vous autres de rester à 2 mètres parce que vous êtes à risque d'avoir le virus. Donc, évidemment, on ne veut pas le donner aux autres. Bon, une consigne qui devient importante, là, puis je vous avais promis de vous dire tout le temps toute la vérité puis de prévenir. Quand on parle de la circulation entre les régions, quand on regarde les chiffres actuellement, il y a 2 régions qui sont plus affectées que les autres, Montréal et l'Estrie. Donc, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire les gens qui sont à Montréal puis les gens qui sont en Estrie, c'est encore plus important de rester à la maison autant que possible. Puis ça veut dire aussi tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal puis en Estrie, bien, faites pas exprès pour aller à Montréal ou en Estrie. Allez-y seulement si c'est absolument nécessaire, parce qu'il y a, toute proportion gardée, beaucoup plus d'infections à Montréal et en Estrie. On n'est pas à l'étape de fermer ces régions-là, mais faisons pas exprès pour aller à Montréal ou aller en Estrie. Bon, maintenant, une autre question que vous m'avez posée hier, puis que j'ai pu y penser cette nuit. Les gens qui continuent de travailler puis qui gagnent moins que 2 000 $ par mois. Bon. Je peux comprendre que ça peut paraître être pas juste. Donc, j'ai demandé au ministre des Finances de trouver une manière de vous compenser. Donc, donnez-moi un petit peu de temps, là. C'est pas simple à mettre en place, mais je vous le dis, là, ceux qui continuent de travailler puis qui gagnent moins que 2 000, on va vous compenser. Faites-moi confiance, là. La mesure, on va l'annoncer dès qu'on est capable de la mettre en place, mais j'ai demandé au ministre des Finances de mettre ça en place. Parlant du ministre des Finances, bien, vous avez vu qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral il y a quelques minutes, quelques heures, pour les entreprises. On a aussi eu des discussions avec le gouvernement fédéral pour les entreprises, pour leur remise de TPS et de TVQ. Donc, évidemment, le 31 mars arrive. Donc, pour donner de l'oxygène aux entreprises, on a convenu de reporter tous les paiements des entreprises, donc l'argent qu'ils ont collecté en TPS, TVQ, au 30 juin. Donc, vous savez que c'est le Québec qui collecte la TPS pour le gouvernement fédéral. Donc, les deux, on va permettre aux entreprises de reporter jusqu'au 30 juin. Bon, maintenant, un mot sur les personnes vulnérables. Là, je pense, entre autres, aux enfants qui subissent de la violence, puis aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Bon, d'abord, on a annoncé ce matin qu'on bonifie le financement pour l'hébergement. Là, vous êtes pas, vous n'avez surtout pas à rester à la maison. Là, je pense, entre autres, aux femmes. Puis là, je veux faire un appel à tous les Québécois. Les voisins, la famille un petit peu plus éloignée. Soyez vigilants. Si vous êtes au courant qu'un enfant ou qu'une femme subit de la violence, bien, appelez la police. Je demande votre aide, là. On doit continuer de s'occuper de nos personnes vulnérables. Puis bon, il peut y avoir des cas, étant donné là, qu'il y a plus de gens qui restent à la maison. Maintenant, je termine avec mon merci du jour aux camionneurs. Les femmes, parce qu'il y en a, et les hommes qui transportent la nourriture, qui transportent les biens essentiels. Merci. Vous travaillez dans des conditions qui sont difficiles. Vous êtes nos héros au quotidien. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Donc, je termine en vous répétant qu'on est en train de livrer la plus grande bataille de notre vie collective. Il faut qu'on respecte les consignes. Donc, on sort le moins possible de chez soi. Puis si on sort, on se tient à 2 mètres des autres personnes. Si on suit ces consignes-là, on va la gagner ensemble, cette bataille. Merci.
Maintenant, quelques mots en anglais.
Alors, le premier ministre François Legault, qui semblait plus ébranlé qu'à son habitude, évidemment, parce qu'il a fait une lourde annonce. 10 décès de plus aujourd'hui, c'est quand même pas rien. Même si on s'y attendait, hein, qu'il allait en avoir des décès, et lui-même s'y attendait, il nous a dit, en fait, qu'on lui avait annoncé il y a quelques jours que ça serait le cas, parce qu'on entre dans une phase critique de la pandémie, c'est le cas. Tout de même, ces 10 décès-là, c'est une annonce qui n'est pas le fun à faire aujourd'hui. Ça porte le nombre de décès à 18 en tout. Le premier ministre qui a commencé son point de presse en remerciant les Québécois d'avoir répondu en si grand nombre à l'appel qu'il a fait hier concernant le bénévolat. Il y a tellement de gens qui ont voulu s'inscrire sur le portail que le portail a connu des difficultés techniques. Tout, supposément, en ce moment, fonctionne bien. Il y a 12 000 personnes à l'heure actuelle qui ont été jumelés avec des organismes. Et François Legault est revenu sur une espèce de controverse qui s'est déroulée hier par rapport à son appel justement aux Québécois à s'inscrire pour faire du bénévolat. Plusieurs personnes trouvaient ça contradictoire avec les directives de confinement. C'est vrai, là, on nous dit de rester chez nous, on nous dit de rester confinés, on nous dit d'avoir le moins d'interactions sociales possibles et paradoxalement, on nous demande de sortir pour faire du bénévolat. Il a tenu à dire que l'appel aux bénévoles, il faut qu'il soit fait parce qu'on doit assurer les services essentiels. Donc, les personnes qui, en ce moment, doivent sortir de chez elles, c'est pour assurer ces services essentiels-là ou pour en donner. On a besoin de personnes qui font du bénévolat et il était fier, M. Legault, des Québécois qui avaient répondu à cet appel en grand nombre. Bon, revenons à cette phase critique de la pandémie. On sait, on a testé beaucoup. 2221 cas confirmés. Donc, c'est près de 400 nouveaux cas. 141 hospitalisations, dont 50 personnes qui sont aux soins intensifs. Par rapport au nombre de tests, on a augmenté le nombre de tests, mais le premier ministre Legault n'avait pas de chiffres à jour parce que dans certaines régions, les tests n'ont pas été comptabilisés encore. Il nous a promis de nous revenir à ce sujet-là dès qu'il aurait les réponses. Et là, par rapport à la situation au Québec, on voit qu'on a plus de personnes infectées que dans les autres provinces. Et là, les gens se posent des questions parce que le Québec est sur pause. Normalement, ça devrait payer. On explique ça, la santé publique explique ça par le fait que notre congé scolaire, malheureusement, est tombé à un bien mauvais moment. En fait, juste avant qu'on dise aux gens de ne pas voyager, il y avait beaucoup de personnes qui étaient un des gens en voyage ou qui sont partis là, tu sais, dans les jours vraiment collés à cette annonce. Donc, évidemment, ça affecte nos résultats. Et là, bon, on revient aussi sur les fameuses marches. Ça aussi, ça sème un peu la confusion un peu partout sur les médias sociaux. Moi, je peux le voir, des gens qui se posent des questions. On réitère qu'on peut sortir prendre des marches, mais que c'est important de garder ses distances, 2 mètres entre les personnes, 5 mètres si on fait du sport. Et évidemment, si on a des symptômes, c'est mieux de ne pas aller prendre de marches. Le premier ministre Legault, par ailleurs, l'a répété, il ne peut pas l'interdire, là, mais si on revient de voyage, si on a des symptômes, ça serait mieux de rester à l'intérieur. C'est ce qu'il a dit, parce qu'on est beaucoup plus à risque si on revient de voyage, par exemple, que la moyenne des autres Québécois d'avoir le virus, donc de le donner. Donc, pour ces personnes-là qui reviennent de voyage, si vous tenez absolument à prendre une marche, ce qui n'est quand même pas la meilleure chose à faire, je le redis, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'assurer de garder ses distances. Et on a parlé aussi, durant ce point de presse, des régions qui sont le plus affectées, Montréal et l'Estrie, sans surprise. On ne voyage pas entre les régions si on n'y est pas obligé. Donc, tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal ou qui ne sont pas en Estrie, on ne fait pas exprès de venir à Montréal. On ne parle pas en ce moment de fermer des régions en particulier, mais comme le soulignait le premier ministre, on ne fait pas exprès. Et là, parlant des fameuses mesures financières, parce que c'est ce qui fait beaucoup jaser depuis hier, là, le fameux 2000 $ par mois qui est imposable, plus imposable, imposable. Donc finalement, là, en ce moment, il est imposable. On ne sait pas demain s'il va redevenir non imposable, mais pour le moment, c'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient, qui ne trouvent pas ça juste, parce qu'il y a des gens en ce moment qui gagnent moins de 2000 $ par mois. Donc, ils se disent, qu'est-ce que ça donne que j'aille travailler alors que je pourrais récolter 2000 $ du fédéral. Donc, le premier ministre Legault a demandé à son ministre des Finances de trouver une façon de compenser ces gens-là. Il demande à la population, à ceux qui gagnent moins de 2000 $ par mois, de lui faire confiance. Il va arriver avec des solutions. Et parlant de solutions, on en a aussi pour les entreprises. On reporte tous les paiements de celles-ci au 30 juin. Là, je parle évidemment des paiements de TPS et de TVQ. Et on a terminé en parlant des personnes vulnérables parce qu'on le sait, là, en ce moment, les gens qui vivent la précarité, je pense entre autres aux enfants, aux femmes qui vivent de la violence conjugale ou qui sont dans des conditions de pauvreté. Bon, on a annoncé ce matin qu'on bonifiait l'hébergement, mais la CAVAC a fait une campagne quand même sur les médias sociaux par rapport au confinement. Là, c'était assez intelligent. Ils disaient, bon, on est confiné, mais on n'est pas prisonnier. Si vous avez besoin d'aide, appelez la CAVAC. N'hésitez pas à aller en maison d'hébergement. Donc, vous n'avez pas à rester dans cette situation-là. Et là, le premier ministre qui a fait un appel à tous, il faut être vigilant. Si on est au courant de des situations problématiques, si on est témoin de gestes de violence, il ne faut pas hésiter à appeler la police parce qu'on le sait, là, il y a une baisse de signalement à la DPJ en ce moment. Les personnes qui signalent le plus, ce sont les personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation et des garderies. Et là, les écoles et les garderies sont fermées. Le signalement baisse, donc il y a des enfants et des femmes qui se ramassent dans des situations pas possibles. Donc, il faut faire notre devoir de citoyen. Et les remerciements de M. Legault aujourd'hui allaient aux camionneurs qui transportent la nourriture, les biens essentiels. Évidemment, ils font un travail dans des conditions difficiles. C'est très, très aussi éreintant pour eux. J'ai même lu des histoires, un camionneur, entre autres, qui amène son enfant avec lui en ce moment sur les routes parce qu'il n'y a pas d'école. Et on termine ce point de presse en rappelant qu'on livre une grande bataille, qu'on doit respecter les consignes. C'est la seule façon pour que ça dure le moins longtemps possible. Évidemment, je vais revenir sur tout ça avec Vincent Dessureau tantôt pour l'info virus aux alentours de 14 heures. Ce matin, dans le Journal de Montréal, je faisais un texte sur nos vieux, parce qu'en ce moment, nos vieux, ils sont malmenés. Il y avait d'ailleurs Isabelle Haché dans la presse qui a consacré sa chronique aussi à la question des personnes âgées. Lâchez-les, nos vieux. On le sait, là, les vieux qui sortent quasiment sont surveillés, on les insulte, ils se font quasiment cracher dessus. Là, c'est peut-être pas la bonne attitude à adopter, mais nos vieux sont seuls aussi. Et c'est ce que je disais ce matin dans ma chronique, ils sont plus seuls que jamais. Et c'était le cas bien avant la crise du coronavirus. Mais ce qu'on peut constater depuis le début de ce confinement, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui réalisent les effets de la solitude. Alors, en tout cas, j'aurais vraiment envie que collectivement, ça nous fasse réaliser que les personnes qui sont dans les CHSLD, dans les centres de soins de longue durée aussi, dans quelles conditions elles vivent, ces personnes-là. Et j'espère que ça va nous pousser à peut-être changer les choses, aller les visiter plus, leur téléphoner. Et je souligne en ce moment que les personnes âgées de 70 ans et plus, oui, elles sont isolées plus que jamais, mais on peut continuer à téléphoner, on peut continuer à les appeler. Et comme le disait François Legault un peu plus tôt, c'est important, si on peut, de sortir pour aller prêter main forte, aller aider ces personnes-là qui doivent rester chez eux, par exemple, aller faire leur épicerie, aller à la pharmacie, chercher leur prescription. C'est important, si on est en bonne santé, de s'impliquer.
De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
Bon, Jacinthe René. Hein? Fallait bien qu'elle fasse parler d'elle par ces temps de pandémie, parce que depuis le 6 mars, il y a un article qui a été publié sur son site Internet, un article qui nous demande « Coronavirus, peut-on s'en protéger de façon naturelle? » Et là, évidemment, ça fait jaser. L'actualité a consacré un article toute cette histoire-là, parce que là, c'est le free-for-all sur la page de Jacinthe René. On nous propose des trucs pour nous aider à respirer, des potions d'huile essentielle qui nous préviendraient d'attraper la COVID-19. Et tout ça, évidemment, ça préoccupe bien des gens. Moi, la première, je trouve ça très dangereux et j'avais envie qu'on parle avec un pharmacien. Christophe Auger est en ligne, pharmacien communautaire en Estrie, chargé de cours à l'Université de Montréal. Salut, Christophe.
Bonjour.
Hey, premièrement, toi, tu travailles en Estrie. C'est quoi, en ce moment, l'état des choses là-bas? Est-ce que la population, parce que c'est une région très, très touchée quand même, là, c'est quoi l'ambiance?
Ben, l'ambiance, je dirais que pour moi, c'est assez difficile à dire parce que je limite le plus possible mes déplacements, c'est-à-dire que je vais de la maison à la pharmacie et de la pharmacie à la maison.
Ouais.
Je vois quand même beaucoup de gens sur les routes, mais savoir est-ce qu'ils ont affaire sur les routes ou non, c'est pas évident pour moi. Donc, on essaye de limiter ça parce que tout ce qui est travailleur essentiel, ben, on veut pouvoir continuer à donner le service, donc il faut qu'on se protège pour pouvoir protéger nos patients.
Et oui, puis toi, à la pharmacie, tu es particulièrement exposé. Est-ce que ça te fait peur?
Je dirais que la peur n'est pas une peur personnelle, c'est plus une peur collective. C'est-à-dire que moi, je suis dans la quarantaine, j'ai pas de problème de santé. Donc, même si je l'attrape, les conséquences pour moi, statistiquement, sont assez faibles. Par contre, si je transmets ça à mes patients, là, ça va être une autre histoire.
Je comprends. Revenons à notre Jacinthe René national. Là, les gens sont inquiets. Là, on le comprend. Les gens cherchent toutes sortes de façons, de se protéger contre la COVID-19, mais aussi cherchent des remèdes un peu maison. On en voit passer un peu partout sur Internet. Il y a même des ministères de santé publique, je pense entre autres à la France, qui ont fait des communiqués à l'échelle nationale pour dire, par exemple, que l'alcool ne tuait pas la COVID-19. Tu sais, il y a toutes sortes de façons, l'eau chaude qui sont mises de l'avant. Et là, sur le site de Jacinthe René, là, l'article en question, c'est quand même assez alléchant parce que là, à date, on n'a pas de vaccin. La médecine traditionnelle n'a aucune réponse à cette épidémie-là. Donc, c'est tentant de se tourner vers les médecines alternatives. Et là, on a tout un protocole sur son site anti-coronavirus. Ça nous renvoie aussi à des sites français, Maison Jacinthe, qui vend des huiles essentielles aux propriétés antivirales. Ça, Christophe, les huiles essentielles, quand même, il y a des gens qui pensent que ça fonctionne, il y a des gens qui y croient, mais scientifiquement, est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines plantes, certaines huiles essentielles qui peuvent être efficaces, qui peuvent être des antiviraux?
Bon, moi, la première chose que je vous dirais, c'est vraiment une honte. C'est une honte de profiter de la peur des gens pour son enrichissement personnel.
Ben oui.
Y a des gens qui vont promouvoir des choses en pensant bien faire. Ça, c'est quelque chose à éviter, bien sûr, mais qui peut se comprendre. Mais des gens qui essayent de vendre des produits en surfant sur la peur de la population, c'est vraiment une honte. Et j'espère que qu'il y aura des conséquences pour ces gens-là. Des produits qui ont, pour répondre à votre question, des propriétés antivirales in vitro, oui, il y en a énormément. Hein, beaucoup de produits qui peuvent agir sur les virus. Mm. Maintenant, in vivo, la réponse est non. Pour l'instant, il n'y a rien pour se protéger du coronavirus. En produits de santé naturelle, les échinacées, les vitamines, les huiles essentielles, tout ça, pour l'instant, c'est un gros non. Il n'y a rien à faire de ce côté-là. Peut-être de l'huile essentielle de moufette si vous voulez garder votre distanciation sociale.
ça risque d'être très efficace.
Oui, ça devrait pouvoir marcher, mais à part ça, il n'y a vraiment rien. Et puis, le message à marteler, c'est actuellement, c'est pas le temps d'écouter les charlatans, les illuminés ou votre tati Daniel qui est pleine de bonne volonté. On écoute les recommandations de la santé publique et on fait confiance à nos professionnels de la santé.
Et ce que je trouve particulièrement pernicieux, outre justement de profiter de la peur des gens pour vendre des produits, parce qu'évidemment sur le site, il y a toutes sortes de liens pour aller acheter ces fameuses trousses de produits et d'huiles essentielles, c'est qu'on on utilise une espèce de jargon scientifique. On fait des affirmations assez douteuses. Entre autres, on parle de quercétine. On cite des études, et bien sûr, il n'y a pas de lien vers ces études-là. Et on dit ces études prouvent que c'est efficace pour se protéger. Et là, tenez-vous bien, Christophe, contre l'Alzheimer, le cancer et bien sûr le coronavirus. Il y a des gens qui vont aller lire ça et qui vont croire ça. Moi, c'est ce que je trouve le plus pernicieux.
Oui, oui, ben ce sont quand même des techniques qui sont bien connues en temps usuel, d'utiliser des termes comme une étude approuvée ou des choses comme ça. S'il y avait des choses qui fonctionnaient, on le saurait. Donc, faut pas croire tout ce qui est écrit sur Internet et surtout pas de la part de personnes qui cherchent à vous vendre des produits.
Mais quand on cite des experts, ça peut quand même semer la confusion. Tu sais, on cite par exemple des naturopathes, des micronutritionnistes. Par ailleurs, on souligne qu'au Québec, ce terme est interdit parce que bon, on a l'ordre professionnel des diététistes qui en bannit l'usage. Tu sais, on parle de phytothérapie, on parle d'aromathérapie. Il y a même des médecins qui sont cités, mais quand on fouille un peu, on se rend compte que bon, c'est pas vraiment des vrais médecins. Tu sais, c'est légal. Le faire ça, moi, c'est ce que je me pose comme question.
Même si c'était des vrais médecins, il y a dans toutes les professions quelques illuminés. Je vous dis qu'en cette période-là, là, je vous ai dit, faites confiance à vos professionnels de la santé. Je pense que si certains professionnels de la santé, que ce soit des pharmaciens ou des médecins, commencent à promouvoir des médecines alternatives basées sur rien ou pas grand-chose, je pense qu'ils peuvent tout de suite commencer à faire des confettis avec leur licence parce que les ordres professionnels ne vont pas les louper. Et puis, se baser sur des pseudo-professionnels d'autres pays, je vous dirais que c'est très facile à faire. Donc, ça vaut pas grand-chose.
On va loin. Là, on dit, si vous êtes contaminé, il y a un délicieux remède à boire composé de 4 plantes. Et là, il y a un hyperlien. On peut cliquer pour, évidemment, acheter ces produits-là. Quand même, ça crée un faux sentiment de sécurité, là, ne serait-ce que de penser qu'on peut se concocter des décoctions à la maison qui pourraient nous prémunir justement d'attraper la COVID.
Absolument. En plus d'arnaquer les gens, on risque de créer des problèmes de santé parce que si on pense que parce qu'on s'est mis de l'huile essentielle d'eucalyptus derrière les oreilles, on va pas attraper le virus, on peut avoir des comportements plus risqués. Donc, c'est vraiment, martelons le message, la protection que l'on peut avoir, c'est de rester chez soi, limiter nos déplacements au maximum, se laver les mains avec de l'eau et du savon, et puis ça va bien aller. Si on a besoin de se déplacer pour aller faire son épicerie, on y va, on n'a pas besoin d'emmener toute la famille, on y va une personne, on se lave les mains en sortant, on se lave les mains en revenant. On utilise les recommandations de la santé publique et c'est notre meilleure façon de nous protéger.
Moi, quand je vois des choses comme ça, je me demande, est-ce que c'est légal? Parce que, bon, on le sait, là, et les pharmaciens, les médecins, sont tenus à une certaine éthique. On peut pas donner des conseils comme ça. Ça se rapproche quasiment de la pratique illégale de la médecine. Là, quand on dit à des personnes, si vous avez la COVID-19, prenez cette décoction-là. Puis, Jacinthe René, par ailleurs, on a essayé de la rejoindre au magazine de l'actualité. Elle se dédouane, elle répond pas. Elle dit, moi, je propose rien en tant que tel. Je dis pas qu'on peut guérir. Donc, elle joue, entre guillemets, dans les failles du système.
Absolument, absolument. On a des choses qu'on peut avancer, puis des choses qu'on ne peut pas. Elle glisse vraiment sur cette ligne-là, finalement.
Elle sait très bien ce qu'elle fait, là. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai.
Absolument. Je pense qu'elle est bien au courant de ce qu'elle peut dire ou ne pas dire. Mais c'est ça. Je pense que je ne sais pas s'il y a des mesures qui vont être prises. On est en temps de crise. Est-ce que certaines mesures devraient être prises pour encadrer mieux les allégations trompeuses? Ça pourrait tout à fait être envisagé. En tout cas, c'est clairement une circonstance aggravante, je pense, pour ces cas-là.
Christophe Auger, vous êtes pharmacien, OK? Et on le sait, dans les pharmacies, il y en a des produits naturels. Est-ce qu'en ce moment, il y a des personnes qui viennent vous voir et qui pensent que certains, justement, produits peuvent les aider par rapport à la situation qu'on traverse? Et êtes-vous pour ça, vous, qu'on vende des produits naturels dans les pharmacies?
Alors, les produits de santé naturelle, ce sont des, ça reste quand même des produits de santé qui peuvent avoir des bénéfices. On ne peut pas jeter tous les produits de santé naturelle à la poubelle, loin de là. Ça peut être des alternatives pour certains problèmes de santé qui sont très intéressants pour certains patients qui n'ont pas forcément besoin d'aller vers des médicaments en tant que tels. Donc, je ne pense pas qu'il faut tout jeter à la poubelle. Par contre, des allégations trompeuses, faut y faire attention. Là, on attend de voir ce que va faire Santé Canada au niveau des niveaux de preuves pour les produits de santé naturelle. Ben, on va voir ce que ça donne. Je pense que actuellement, ils ont d'autres chats à fouetter que ce dossier-là. Est-ce que je suis moi, je pense que le rôle du pharmacien, c'est d'informer. Hein, celui qui vient me chercher des échinacées pour se protéger, ben, je lui explique que ça va rien faire du tout, mais c'est ça, on donne les conseils, on informe le plus possible les patients. Si on retire les produits de santé naturelle, comme l'échinacée par exemple des pharmacies, est-ce que les gens vont arrêter de les utiliser ou ils vont aller chez un vendeur de produits de santé naturelle pour se les acheter et avoir un conseil qui n'est pas adéquat? Ben, c'est une question qui n'est pas simple.
Et Christophe Auger, il y a quand même certains pharmaciens qui sont des pharmaciens propriétaires et évidemment, retirer tous les produits naturels des tablettes, c'est se couper une source de profit. Ça aussi, c'est une discussion qu'on pourrait avoir à un autre moment. Merci de nous avoir parlé, Christophe Auger. On rappelle aux gens qu'il faut suivre les directives des professionnels de la santé et non se fier à tout ce qu'on lit sur Internet. Cédons pas à la peur. En ce moment, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Il faut vraiment faire le tri entre la bonne information et les charlatans. Et c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver sur le site de Jacinthe René par rapport à la COVID-19. Ça ressemble pas mal à ça, de la charlatanerie. Christophe Auger, pharmacien communautaire en Estrie, chargé de cours à l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé. Et je vous rappelle qu'en 2018, l'Ordre des chimistes du Québec avait mis en garde Maison Jacinthe, donc la compagnie de Jacinthe René, pour usage illégal de la chimie dans la fabrication de produits cosmétiques. L'entreprise avait engagé un chimiste. Par la suite, la même année, Maison Jacinthe s'était retrouvée un peu dans le pétrin parce qu'un de ses naturopathes avait conseillé à une mère de famille de faire un lavement à son bébé d'à peine 3 semaines. Il y avait eu aussi toute une polémique concernant la pertinence ou non de la crème solaire. Donc vraiment, Maison Jacinthe qui continue, persiste et signe un peu dans la même veine que Gwyneth Paltrow qui nous suggère toutes sortes d'affaires farfelues pour gérer notre santé. Arrêtez donc ça.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés.
Dans toute cette crise du coronavirus, la question de nos finances personnelles est au cœur de nos préoccupations et, entre autres, nos paiements hypothécaires. On a beaucoup de questions des banques qui offrent la possibilité à certains clients de prendre congé de paiement hypothécaire. J'en parle tout de suite avec Daniel Germain, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Salut, Daniel.
Bonjour, Geneviève.
Écoute, tu sais, quand on dit certains de leurs clients, là, j'ai comme l'impression que c'est les petits caractères en bas du contrat. Tu sais, comme quand on achète une voiture et qu'on lit pas nécessairement toutes les conditions.
C'est vraiment évalué au cas par cas. Je ne sais pas c'est quoi la recette, les critères qui sont utilisés par chacune des institutions financières. Et quand on dit au cas par cas, on parle de, ça peut être un report de 6 mois ou ça peut être un report de 3 mois selon les cas. Je ne sais pas trop comment c'est évalué. Il faut vraiment se retrouver dans le bureau avec le conseiller pour connaître et encore les critères avec lesquels il travaille. Je trouve ça un peu malheureux parce que je trouve que
tu veux dire le manque de transparence des banques?
Ben, en fait, le manque de transparence, et je trouve que c'est une mesure qu'on sous-estime. Je trouve qu'il y a des bons avantages de cette mesure-là et je trouve que les banques chipotent un peu et pourraient être plus ouvertes, plus flexibles par rapport à cette mesure-là.
Bon, là, les gens ont plusieurs questions là, par rapport au report des paiements hypothécaires. Premièrement, je pense que la première question là, qui revient tout le temps, c'est est-ce que si on fait le report de nos paiements hypothécaires, on a congé d'intérêt?
Non, on n'a pas de congé d'intérêt. Faut savoir que dans un paiement hypothécaire, il y a beaucoup d'intérêt. Ben, ça dépend toujours où on se situe.
Oui, si on est au début de son prêt, mettons, c'est pas la même affaire.
Au début de son prêt, on paie beaucoup d'intérêt. À la fin de son prêt, là, quand ça fait 20 ans qu'on rembourse, il y a vraiment peu d'intérêt. Donc, pour ceux, évidemment, ça concerne surtout les gens qui payent beaucoup d'intérêt. Et les intérêts, c'est quand même assez élevé. Les banques, ils ne donneront pas. En tout cas, c'est pas dans leur nature de donner de l'argent.
Donc, non, il n'y a personne qui va vous faire de cadeaux, là.
Non, les banques, puis surtout pas les banques. Donc, disons que pour un paiement hypothécaire de 1 000 $, c'est la moitié environ qui part en intérêt.
Si on est au début.
Qui est constitué l'intérêt, on est au début. Okay. La banque, elle ne vous donnera pas 500 $. Là. Donc, ça devient capitalisé. Si on repart, le 500 $ qu'on devait payer se rajoute à l'hypothèque. Il sera remboursé plus tard.
Oui, parce que là, justement, là, tu dis que ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. Puis là, on parle d'hypothèque, mais c'est la même affaire aussi pour les mesures gouvernementales, notamment pour le report des paiements d'impôts, le report de la TPS, TVQ. Si on prend cet argent-là maintenant puis qu'on paie d'autres choses avec, c'est correct, sauf qu'il faut toujours garder en tête qu'il va falloir le repayer plus tard. Là.
Oui, et c'est drôle parce qu'on a commencé à parler des chocs post-traumatique, hein, ces 2 derniers jours.
Oui, on en parle après toi, justement, avec une psychologue.
Il va y avoir un choc post-traumatique des finances personnelles, probablement à la suite de cette crise-là. Et les SF s'attendent à avoir beaucoup de gens dans leur bureau une fois que la crise sera passée. Là, c'est encore assez tranquille de ce temps-ci, mais les bureaux d'économie familiale, vont avoir la visite une fois que le gros sera derrière nous.
Ben, les syndics aussi commencent à avoir de la visite, je te dirais ça.
Oui, les syndics vont avoir. Ben, c'est sûr que ceux qui étaient sur à la limite vont difficilement passer à travers cette crise-là. C'est sûr qu'il y aura des faillites puis des ententes de consommateurs qui vont se multiplier au cours des prochains mois, ça c'est évident.
Puis c'est un contexte particulier aussi en ce moment. Là, on n'a jamais vécu ça. C'est une crise mondiale, donc il n'y a pas de honte à aller voir un service de syndic de fête. Et je rappelle que la première rencontre est gratuite. Une autre question qui revient vraiment souvent, Daniel Germain, par rapport au report des paiements hypothécaires. Puis peut-être aussi, tu pourras répondre pour le report d'autres types de paiements. Je pense entre autres, si on prend un arrangement avec Hydro-Québec, par exemple, pour ne pas payer avec notre compagnie de câble distribution. Si on saute des paiements hypothécaires, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça affecte le dossier de crédit?
Non, c'est pas. C'est justement, c'est le but. On n'est pas pénalisé de ce côté-là. Donc, tant aussi longtemps qu'on est à l'intérieur des paramètres établis par la banque ou par Hydro-Québec ou d'autres services publics. Donc, mais c'est important d'appeler.
Il faut faire l'entente de paiement.
Ah, oui, il faut avoir une entente. Il faut appeler et il faut avoir une entente. Dans le cas d'Hydro-Québec, le non-paiement des factures, à ma connaissance, peu importe les circonstances, n'affecte pas le dossier de crédit, cela dit. Donc, si vous avez de la misère à avoir la ligne et vous demandez si je dois payer ou non, retarder votre paiement jusqu'au moment où vous pouvez vous entendre. Parce que
à Hydro-Québec,
probablement que les lignes sont dures. Vraiment, c'est difficile d'avoir du service à distance.
Il y a un service automatisé d'entente de paiement à Hydro-Québec, Daniel. Ah, oui, bon, je te l'apprends. OK. Une autre question que les gens se posent en ce moment, parce que bon, il y a toute la question des taux d'intérêt. Le marché immobilier aussi va être appelé à muter. En tout cas, c'est ce que les experts prédisent. Est-ce que la maison, dans ce contexte-là, là, est-ce que c'est encore un bon investissement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur leur investissement immobilier en ce moment.
Ouais. Ben, en fait, moi, d'abord, la maison, faut pas voir ça comme un investissement. Ceux qui ont une maison doivent se compter chanceux d'avoir une maison, d'avoir un cocon dont ils peuvent profiter ces temps-ci.
Oui, mais Daniel, tu le sais, il y en a que c'est leur fonds de pension. Ils se disent ça, là, moi, quand je vais prendre ma retraite, je vais vendre ma maison, je suis à Montréal, j'ai payé ça, mon duplex, 230 000, je vais leur vendre 800. Tu le sais que c'est ça. Là.
Ouais. Oui, je le sais, mais de toute façon, historiquement, remarque, on n'a jamais eu de crise comme celle-là, donc on peut pas faire des prévisions.
On spécule.
Mais le marché immobilier à Montréalais a rarement fléchi et ça a toujours été de courte période. La période, je pense, qui est la plus pénible pour les investisseurs immobiliers, là, si on parle d'investissement, ça a été les années 90 à ma connaissance. Ça a stagné tout ce temps-là et puis ça a commencé à redécoller dans les années 2000, mais ça n'a pas baissé. Donc, ceux qui ont acheté un duplex il y a 20 ans, 10 ans, ben, je ne penserais pas que ces gens-là vont perdre la plus-value qu'ils ont gagnée au cours des 20 dernières années. Ceux qui viennent d'en acheter un, probablement que l'augmentation sera moins, disons que dans les prochaines années, ou en tout cas à court terme, ça ne sera pas très élevé.
Oui, mais ça, c'est comme les REER, on attend que ça passe.
Oui, mais dans le cas de l'immobilier, ce qui va, le facteur qui est important, c'est le taux de chômage.
Oui.
Si la crise devait détruire les emplois de manière durable, ça pourrait avoir un impact sur l'immobilier. Mais bon, jusqu'à maintenant, les experts sont plutôt doutent de ce scénario-là, mais bon, les experts doutent bien des scénarios de 3 semaines.
Tu as bien raison.
On voit comment. Mais je m'en ferai pas en ce moment. Il y a plus urgent. Je ne penserai pas à la plus-value de mon duplex ou de ma maison pour les 6 prochains mois. Je m'occuperai de faire en sorte
de ne pas manquer de cash flow.
De pas manquer de faire le cash flow et d'aider des gens autour de soi qui seraient dans un pétrin plus grand que soi-même. Donc, c'est comme ça que je j'irais. Parce que le moment est plus à la solidarité, à l'entraide, ce genre de trucs en ce moment.
Daniel, en 30 secondes, est-ce que c'est un bon moment pour aller renégocier son taux hypothécaire? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent.
Ça dépend vers quoi on s'en va, mais c'est sûr que ça dépend du taux hypothécaire qu'on a.
Mais non, la banque vient d'abaisser encore le taux directeur.
Ouais. Mais ça change vraiment de semaine en semaine. Pendant que les taux directeurs baissent, évidemment, ça va influencer les taux variables, mais les taux de 5 ans fixes, eux, ont plutôt tendance à monter assez curieusement. C'est curieux. En fait, c'est que c'est pas basé sur les mêmes, c'est pas appuyé sur les mêmes données économiques.
Ouais.
Et c'est pas évident. Si on a une hypothèque qui ne coûtera pas une pénalité trop élevée à briser, ça pourrait être envisageable d'aller renégocier son hypothèque. Sinon, les pénalités sont trop élevées, ça vaut pas le coup pour le.
Très bien. Daniel Germain, on continue à te lire dans le Journal de Montréal et Journal de Québec dans la section argent. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ça a été un plaisir. Merci.
Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Les effrontés.
Avec Geneviève Petersen.
Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
Les effrontés.
Je sais pas si vous connaissez l'expression anglaise avoir le cabin fever, c'est ce qu'on ressent souvent après un long hiver, tu sais, quand on est enfermé dans la maison, qu'on peut pas sortir, on devient à moitié fou d'être obligé de passer trop de temps à l'intérieur. Et là, imaginez, on est en période de confinement, ça va faire déjà presque 2 semaines qu'on est obligé ou qu'on est tenu à demeure. Et ça, ça peut avoir un impact à long terme et à court terme aussi sur la santé mentale de bien des gens. J'en parle avec le docteur Christine Groulx, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Groulx, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, on commence à voir des témoignages sur les médias sociaux. Les gens commencent à trouver ce long, même si ça fait à peine 2 semaines là, qu'on est tenu de rester à la maison. J'ai envie de savoir, c'est quoi les effets du confinement sur la santé mentale?
Bien, il n'y a pas énormément d'études qui ont été faites sur le confinement en période de pandémie. Hein? Les comparables qu'on a, c'est des confinements dans d'autres circonstances, comme par exemple les personnes qui sont isolées en psychiatrie, les prisonniers, les gens qui sont pris en otage. Mais ce qu'on sait, c'est que après une période de confinement, là, ça va dépendre de 2 choses, en fait de 3 choses. Ça va dépendre de la vulnérabilité que vous avez personnellement. Avant ça, ça va dépendre de la durée du confinement, puis ça va dépendre des conditions du confinement. OK? Je m'explique. Si vous êtes confiné dans un petit appartement où vous êtes 5 personnes puis 3 enfants turbulents, ça peut peut-être être différent que si vous êtes 2 dans une grande maison puis que vous vous supportez bien. Mais donc, ça ne sera pas les mêmes effets pour tout le monde parce que ça va dépendre de ces choses-là. Mais de façon générale, ça va avoir un effet de générer de l'anxiété, ça c'est certain, de générer de la frustration, de générer éventuellement un sentiment d'impuissance puis un sentiment d'être un peu comme une bête en cage. Puis, tu sais, l'hiver, en général, on n'est pas confiné, mais il faut se rappeler à chaque année, quand le soleil sort, de la ruée des gens vers les terrasses, tu sais, pour savoir à quel point on a hâte de sortir, puis on a hâte de pouvoir se retrouver, puis on n'est pas confiné, tu sais. Alors, là, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup d'imagination pour alterner les activités, pour être créatif dans les activités, pour rester stimulé, pour rester en contact avec les gens de toutes sortes d'autres façons, puis pour continuer à faire un peu d'activité physique.
Mais c'est ça, parce que, Dr. Groulx, je pense quand même que c'est important de le souligner, là, vous l'avez dit, il y a la question de notre caractère. C'est sûr que si on est une personne très casanière qui aime passer énormément de temps à regarder Netflix, c'est différent que si, par exemple, on a une personne qui va dans des 5 à 7, qui a une vie sociale très, très active, ça ne sera pas les mêmes effets. Là, moi, je voyais des gens qui disaient, écoute, moi, ça ne change pas grand-chose à ma vie, le confinement, là, majoritairement, je suis chez nous, tu sais.
Exactement, il y a des gens qui vivent de façon un peu plus hermétique, mais donc oui, ça fait une différence, ça c'est clair. Puis tu sais, il y a des gens qui s'ennuient très facilement dès qu'ils sont seuls ou qu'ils savent pas quoi faire, puis il y a d'autres gens qui se trouvent toujours des choses à faire. Tu sais, il y a des gens qui vont même en profiter, tu sais, pour apprendre une langue seconde sur le web ou pour repratiquer des pièces de musique qu'ils avaient perdues ou peu importe, mais il y a des gens qui s'ennuieront pas facilement. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde parce que on n'est pas confiné pour rien, puis je pense qu'on s'en souvient quelque part, là, tu sais. Mais puis je dirais aussi, il y a une grosse différence entre être isolé puis être confiné, parce que faut faire attention à ceux qui sont plus isolés. Ça, c'est ceux que...
Ceux sont à risque plus, là.
Ben, ceux que personne les appelle, ceux qui peuvent pas faire des FaceTime, ceux qui reçoivent pas de téléphone, tu sais, ou qui sont un petit peu plus seuls. Donc ceux-là, effectivement, dont la socialisation se fait vraiment à l'extérieur, ben ils sont peut-être un petit peu plus isolés. Mais alors ça va dépendre d'un ensemble de variables, mais c'est sûr que l'ennui, la frustration, la plus grande irritabilité, tu sais, les ruminations, dépendamment des stresseurs qui s'accumulent, ben c'est tous des effets qu'on est susceptible de vivre. Puis pour les enfants, les jeunes, ben c'est sûr que les comportements vont changer, tu sais. Donc les y a des enfants qui peuvent devenir plus turbulents, des enfants qui peuvent devenir plus anxieux, des adolescents aussi qui peuvent devenir un peu plus opposant, mais ça va dépendre, comme je vous dis, d'un ensemble de facteurs.
Tantôt, vous avez dit, il y a des gens qui ont une certaine facilité à s'occuper, là, c'est-à-dire ils vont se trouver des choses à faire. Puis c'est vrai qu'au début, on avait comme un peu tous et toutes l'impression d'être en vacances, tu sais, là, parce qu'on est chez nous, la réalité est changée. Mais il y a quand même un phénomène que j'ai vu poindre, et je ne suis pas la seule, c'est cette notion de performer. son confinement. Mm-hmm. Tu sais, regardez ce que je fais du sport, je fais de la bouffe, je fais le ménage de mes garde-robes, et ça, ça peut créer de l'anxiété chez certaines personnes.
Oui, beaucoup. Moi, puis ça, c'est bien important parce que moi aussi, j'ai entendu ça beaucoup. Quand on est confiné, là, faut diminuer la pression. Faut pas s'en rajouter.
C'est fait ça, là.
Quand on fait toutes ces garde-robes, puis quand on décide de performer musicalement parlant ou encore de devenir le meilleur des chefs dans notre cuisine, faut le faire par passion, puis parce que c'est un exutoire, parce que ça nous permet justement d'évacuer la tension. Faut surtout pas se rajouter de la pression puis de la tension par-dessus. Il faut surtout pas se rajouter des éléments qui vont nous faire sentir plus coupables à la fin de la journée parce qu'on n'aura pas réussi notre journée, justement. Puis il faut aussi se rappeler que ça se peut qu'on ait une moins bonne journée que d'autres. Puis toutes les journées n'ont pas besoin de se ressembler. Tu sais, je veux dire, c'est, à un moment donné, quand on a une moins bonne journée, il faut peut-être penser que demain, même si le confinement n'est pas fini, ben on va faire ça un petit peu différemment. Mais je pense que ce qui peut aider beaucoup aussi, sans avoir derrière la tête l'objectif de performer, c'est au moins d'avoir, non pas un objectif, mais un intérêt. Tu sais, de dire, ben moi, je vais faire ça tant d'heures par jour, puis il faut les alterner, les activités, il faut les varier, parce que, tu sais, à un moment donné, au bout d'une semaine, le grand ménage de la maison, il
est c'est fait, propre, là.
Pas... c'est bien propre.
Que... OK. Là, le Québec est sur pause pour une durée de 3 semaines. On peut soupçonner que ça va durer. Je veux qu'on parle de l'après-confinement, parce qu'évidemment, selon la période de temps que ça va durer, les impacts vont être différents. Après, là, quand ça va être terminé, là, je parle de l'après-confinement, il va aussi en avoir des effets psychologiques quand on pourra graduellement reprendre le cours de nos existences.
Oui, moi, je vous avoue que je m'inquiète plus de ces effets-là. Parce
oui, hein?
Que moi, je pense que, puis particulièrement chez les gens qui sont plus vulnérables, que là, la pandémie, puis ses effets secondaires, je vous dirais, dont le confinement, ça n'aura pas nécessairement le même effet chez tout le monde, mais il y a des gens chez qui ça va laisser plus de séquelles. Alors, soit chez les gens qui sont plus vulnérables, parce qu'ils avaient déjà une fragilité ou un problème de santé mentale qui va peut-être se complexifier ou encore s'aggraver un peu, soit parce que il y a des gens qui ont été moins chanceux que d'autres, où il y a des gens qui ont eu plus de stresseurs que d'autres, comme par exemple la perte de l'emploi, la perte de
stress
revenus,
financier, c'est sûr.
Les difficultés d'apprentissage des enfants qui n'ont pas terminé leur année scolaire, des tensions dans le couple, des problèmes de consommation qui se sont peut-être, je mets ça tout au pire, là, en espérant que tout le monde n'aura pas tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça peut potentiellement arriver, puis ça va durer plus longtemps que l'effet de la contamination puis de la propagation. Fait que moi, j'espère juste qu'on n'oubliera pas de se pencher là-dessus, parce que pour moi, l'accessibilité puis la continuité des soins en santé mentale, c'est un gros enjeu actuellement au niveau de nos services de santé. Fait que tu sais, si ça se trouve, là, ça sera pas mieux après, mais ça pourrait être pire.
Puis c'est fou, Dr. Gros, il y a même des études qui comparent les effets du confinement à l'après-guerre. Tu sais, il y a des gens qui vont remettre, par exemple, toutes leurs existences en question. Il peut y avoir un changement radical des valeurs, des couples, justement, qui, confinés ensemble, vont se rendre compte qu'ils sont rendus au bout de leur route. Ça va avoir un effet, ça pourrait être vecteur de changement positif comme négatif chez bien des gens, là.
Mais c'est certain que, oui, il faut pas oublier qu'il peut y avoir des changements positifs, hein, parce que c'est certain que, dans le fond, une crise dans la vie, là, on souhaite pas ça, mais quand ça arrive, ça nous force à explorer des nouveaux chemins, ça nous force à découvrir des nouvelles trajectoires, puis des fois même des intérêts ou des ressources qu'on pensait même pas qu'on avait en nous. Fait tu sais, c'est vrai que c'est aussi, non pas pendant la crise, mais ça permet de faire un temps d'arrêt puis de remettre certaines choses à question. Mais je dis une chose à la population, ce n'est pas le temps, pendant un temps de crise, de prendre des grosses décisions. Tu sais, c'est pas le meilleur temps pour réfléchir à des grosses décisions, comme par exemple puis des choses qu'on réfléchissait pas avant, là, comme vendre sa maison ou encore se séparer. Tu sais, je pense qu'il faut attendre de que la tension ait diminué, il faut attendre d'avoir pris du recul, puis il faut attendre de se ressentir un peu en contrôle de la situation, là, avant d'être capable de prendre des décisions comme ça. Puis dans n'importe quel contexte où on est ébranlé, où on est en train de s'adapter actuellement, c'est pas le meilleur temps pour prendre des décisions importantes et irréversibles.
Très bien, docteur Christine Groulx, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On parlait des effets psychologiques du confinement et je rappelle aux gens quand même qu'il y a beaucoup de psychologues qui continuent à pratiquer sur des sites sécurisés. Donc, ils font leurs consultations de façon électronique. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ça m'a fait plaisir.
Écrivaine, blogueuse, scénariste et animatrice.
Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
C'est l'heure d'Infovirus avec Vincent Dessoureau. On n'a pas appris tellement des bonnes nouvelles ce midi au point de presse de M. Legault, des décès.
Effectivement, c'était pas les meilleures nouvelles, encore une fois, donc par notre premier ministre François Legault lors de son point de presse de 13h. Bilan des décès qui a monté beaucoup. Là, on était à 8, on passe à 18.
Donc il avait l'air ébranlé.
Il avait l'air un peu ébranlé, effectivement. Je pense qu'il sait là, qu'il aura des mauvaises nouvelles à annoncer régulièrement, mais on sent que c'est quand même pesant. S'ajoutent donc 392 cas au Québec. Alors, on ne voit pas nécessairement de courbe s'aplanir tant que ça. Évidemment, est-ce que ça prendra un certain temps encore, mais c'est une hausse de cas quand même encore importante. 2021 cas donc au Québec, 141 cas hospitalisés, 50 aux soins intensifs. Ça, peut-être un petit mot parce qu'on dit qu'il y a quand même beaucoup de cas aux soins intensifs par rapport au nombre de gens hospitalisés. Alors, il y a eu des questions à savoir est-ce que les gens sont plus malades chez nous qu'ailleurs. La réponse a été tout simplement, bien là, on a de la place aux soins intensifs. Alors, dès qu'on a un doute, qu'on veut leur donner plus de surveillance...
C'est en mode défensif.
Exact. Lorsqu'on se sera plus serré dans les espaces, il y a des gens qui ne devraient pas être aux soins intensifs, qui ne seront plus. Mais que là, on les envoie par extrême prudence. Parce que des lits, d'ailleurs, pour vous rassurer, il y en a. Daniel Mécan a fait le point. Il y a 7000 lits présentement de disponibles. Ça a monté en flèche dans les derniers jours.
On parlait de 2000 au début de la crise.
2000, 4000, c'est rendu 7000 lits libérés. Aux soins intensifs, c'est près de 800 lits qui sont disponibles. Alors, le réseau est capable de prendre du monde. Ce qui a été vraiment central là, dans ce point de presse-là, Geneviève, c'est Montréal. Parce que là, il y a 2021 cas au Québec, dont presque la moitié à Montréal, 971 cas. On sait que ça a circulé un peu dans les médias, comme quoi il y a certains secteurs de Montréal qui sont plus touchés, là, le centre-ouest de l'île, Côte-Saint-Luc, Côte-des-Neiges. Est-ce qu'on se dirige vers une certaine forme de quarantaine au niveau géographique? Là, donc,
de isoler
Montréal.
Des secteurs de la ville ou isoler la ville?
Les deux. Est-ce qu'on isole un secteur? Est-ce qu'on isole la ville? Évidemment, autant François Legault que Horacio Arruda vont pas répondre. C'est à partir de ce moment-là qu'on y va ou pas, mais on sent qu'il y a une préparation.
On s'en va vers là, peut-être.
Qu'on s'en va peut-être vers là. Ça fait du moins clairement partie d'un des scénarios possibles, dépendamment de la courbe et de la contagion un peu partout à Montréal.
Bien, ça, sur le break, parce que ça frappe quand même l'imaginaire quand on dit, bon, vous serez restreint dans vos libertés, dans vos déplacements. Ça rappelle les fameuses mesures de guerre, ça rappelle la crise d'octobre. Je comprends qu'il soit particulièrement frileux à s'avancer à ce stade-ci, mais quand même, à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence.
Absolument.
Là.
D'ailleurs, Valérie Plante sur nos ondes ce matin avec Benoît Dutrisac, c'était quand même montré inquiète là, dans ce dossier-là. Montréal et la province se parlent, sont en discussion d'ailleurs pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur l'île de Montréal. On l'est au niveau provincial, là, ce qui permet et donne l'autorité à la santé publique de fermer une région. Et ça peut être de différents niveaux. Ça peut être tout simplement d'avoir un contrôle sur un peu ce qui se passe à une fermeture complète. Mais ce que Horacio Arruda a tenu à dire, c'était si jamais ça se produit, ça va bien se faire et assurez-vous qu'on inquiétez-vous pas, les services auront lieu dans une zone qui est en quarantaine. On peut écouter Horacio Arruda là-dessus.
C'est sûr que quand on confine des gens dans un territoire, on s'assure à ce que la sécurité, les besoins essentiels soient là. On n'ira pas enfermer un secteur puis dire mais dans ce quartier-là, personne ne mange, puis etc. On s'organise pour qu'il n'y ait pas de violence non plus, parce qu'il y en a qui peuvent décider de faire de la violence, aller faire des vols, etc. Donc, c'est une série d'interventions qui permet d'appuyer le citoyen dans son confinement.
Bon. Ça fait quand même peur. Hein,
ça fait, honnêtement, là, ça fait pas plaisir à entendre.
Non. C'est sûr que là, il y a des. Dans les régions, là, pour quand même faire. Faut rappeler que c'est pas seulement Montréal, là. Évidemment, on parle de l'Estrie, là. La Montérégie, Estrie et Montérégie, c'est même au prorata, là, de la population, c'est encore plus élevé, là. Alors, Montréal est pas seul là-dedans. Capitale nationale, c'est une centaine de cas maintenant. Donc, il faut aussi qu'il y ait une utilité de fermer un secteur. Il faudrait qu'il y ait d'autres secteurs où il n'y en a pas, là. Alors, est-ce qu'une région, par exemple, vraiment peu touchée, comme la Côte-Nord, par exemple, pourrait, elle, se refermer aux autres? C'est pas impossible aussi. Il y aura des discussions avec les régions, mais...
Il y a déjà un sentiment de méfiance quand même par rapport aux régions et la COVID-19. Là, il y a des gens qui ont des maisons secondaires en Estrie qui se sont fait placer des mots, par exemple, sur le bac de récupération.
Oui.
Comme quoi, tu sais, la COVID-19 montréalaise, on n'en voulait pas chez nous. Là.
D'ailleurs, François Legault en a parlé de ça. Il a dit là, pour ce qui est de se promener en région... Dis-moi, là, je vois pas de problème. S'il y a une famille qui part de Montréal et qui s'en va s'enfermer dans son chalet...
En confinement,
je vois pas de problème. Ce qu'il faut pas faire, c'est d'arrêter à l'épicerie dans le village, arrêter au bureau de poste, arrêter à la pharmacie.
C'est pas le temps de faire son jour de l'an, là.
Non, mais si vous achetez vos choses à Montréal, votre épicerie, vous allez vous enfermer en région, vous sortez pas de là pendant 2 semaines, techniquement, il y a pas trop de problème. Alors, faut pas non plus voir les gens de Montréal comme étant pestiférés partout au Québec. Ça peut être bien fait, mais vous pouvez demander à un voisin d'aller chercher votre épicerie, de la mettre sur le perron. On s'entraide comme ça. Alors, c'est pas impossible.
Oui, l'entraide, pas la méfiance.
C'est ça. Alors, pour c'est un peu la clarification qu'il tenait à faire. Autre clarification importante, les promenades.
Les fameuses promenades.
Bon, pour les dépendamment des gens, il y a un oui, vous pouvez vous promener, un non, puis il y a un peut-être. Le oui, pour tout le monde là, qui n'est pas en confinement forcé là, en raison de la maladie, qui n'a pas le virus, la promenade, il n'y a pas de problème tant que vous tenez une certaine distance. Si vous avez la COVID-19, il n'y a pas de promenade. Ça, c'est clair? Vous restez en dedans.
Mais il ne peut pas empêcher les gens de sortir. Il l'a bien dit. Après, il conseille de ne
pas
sortir.
C'est une directive, disons, c'est effectivement. Il y a pas, mais c'est non. Si vous arrivez de voyage et vous êtes dans votre quarantaine, ben là, c'est un peut-être. C'est-à-dire, vous pouvez le faire, là, mais là, vraiment, tenez-vous loin des gens, allez dans des rues dégagées, croisez personne, parlez à personne, vraiment des petites promenades. Alors,
c'est pas sur le Mont-Royal, les gens font la file, ils respectent pas les distances.
Il y a des endroits touristiques, effectivement, où ça commence à être un peu chargé. Alors, c'est la situation présentement. Un mot rapidement aussi sur le fameux 2000 $ là, du gouvernement fédéral.
C'est véritable. Pour revenir. Téléroman, je veux dire.
Absolument. François Legault tenait à dire, parce qu'il y a une inquiétude par rapport à ceux qui gagnent un plus faible salaire, est-ce qu'ils vont tout simplement arrêter de travailler, même dans des services essentiels, pour se mettre sur cette prestation-là? Parce que à quoi bon travailler puis me mettre à risque dans une pharmacie si je gagne autant avec le programme fédéral? François Legault promet qu'on va compenser ces gens-là. Ça va venir. Faites confiance au gouvernement du Québec là-dessus. On peut l'écouter.
Les gens qui continuent de travailler puis qui gagnent moins que 2000 $ par mois. Bon. Je peux comprendre que ça peut paraître être pas juste. Donc, j'ai demandé au ministre des Finances de trouver une manière de vous compenser. Donc, donnez-moi un petit peu de temps, là. C'est pas simple à mettre en place, mais je vous le dis, là, ceux qui continuent de travailler puis qui gagnent moins que 2000, on va vous compenser.
Bon, alors ça peut rassurer certaines personnes qui disent à quoi bon travailler. Sachez-le, il y aura une compensation de combien ce sera à voir. Et en terminant sur François Legault, il est revenu aussi, parce qu'il y a quand même souvent des clarifications, parce qu'évidemment, il y a plein de questions là, qui restent en suspens.
Mais là, on est en train de réparer le moteur de l'avion pendant que l'avion est en vol.
Exactement.
C'est un peu ça qui se passe.
On bâtit l'avion en même temps, ouais. Et on la répare d'un côté. Concernant le bénévolat, hier, il y a eu un appel au bénévolat pour les Québécois, et il y a eu quand même une réaction sur, entre autres, le web à dire, ben là...
Contradictoire message.
Ouais, on veut pas que j'aille travailler, mais pour travailler pour rien, ça, pas de problème. Bon, on voulait rappeler, le bénévolat, là, ce sera pas at large du bénévolat pas inutile, mais disons du bénévolat qui est pas critique. Ce qu'on veut, c'est du bénévolat pour les services essentiels.
12 000 personnes quand même qui ont été affectées à un organisme déjà là, répondu en fou.
Le site a été surchargé. Ouais. François Legault tenait à remercier les Québécois. Mais pour des services essentiels, le bénévolat, il n'y a pas de problème. On peut l'écouter là-dessus.
Donc, tout le monde à la maison, sauf pour aller chercher des services essentiels ou pour en donner. Le bénévolat, on parle pas de bénévolat social, là, de façon générale, on parle de bénévolat pour donner des services essentiels comme de nourrir tout le monde.
Alors, il n'y aura pas de bénévolat pour aller enlever des graffitis là, dans une ruelle.
Pas de travaux communautaires.
Exact. Mais pour aller livrer, par exemple, la nourriture à des gens dans le besoin, des gens qui sont plus âgés, qui ont pas, qui peuvent pas le faire par eux-mêmes, ça, c'est permis. Mais ça va pas, ce sera pas tous les Québécois qui sont en sans emploi présentement qui vont se présenter. Alors, on peut respecter quand même ce confinement social malgré un appel au bénévolat.
Du côté de chez Justin Trudeau.
Oui. Bon.
Là, à l'heure où on se parle, 2000 $ est imposable. Vincent.
Là, à l'heure, actuellement, on est au sommet de la montagne russe, ou plutôt en bas, ouais. Parce qu'il est effectivement, hier, je me suis excusé pour vous avoir dit que c'était
non imposable,
alors que finalement, c'est imposable. Ce matin, on a la nouvelle comme quoi ce serait non imposable. Et ben finalement, c'est imposable. Alors, et c'est pas seulement parce que moi-même, je suis mêlé, c'est parce que le gouvernement fédéral était mêlé, là, également. Et il semble avoir eu des... On a avancé, on a reculé.
Allers-retours.
Alors, c'est pour ça que c'est pas clair. On essaie de vous rendre ça simple, mais pour personne, c'est simple, incluant le gouvernement fédéral présentement. Alors, Justin Trudeau avait des annonces à faire aujourd'hui, importantes encore sur pour les PME. Alors, on change... certaines choses. Le gouvernement fédéral qui avait prévu le subventionner jusqu'à 10% des salaires de PME, donc qui sont touchés par la COVID-19 pour garder des employés, ben finalement, ce ne sera pas 10%, ça va être 75%.
C'est un gros bond, cela.
C'est énorme. Rétroactif au 15 mars. Par contre, là, ça touche qui? Ben, c'est des PME. Quelle PME? Dans quel contexte? Est-ce qu'il y a un nombre un salaire limite? Comment ça va fonctionner? On le sait pas. Ce sera lundi prochain que le gouvernement fédéral va donner des détails. Également, un prêt de 40 000 $ aux PME.
Garanti par le gouvernement.
Qui pourront faire la demande aux institutions financières pour avoir un peu d'air très rapidement. Alors, ça va coûter cher, ça.
Y a-t-il un comptable dans l'avion? Moi, c'est la question que je pose.
Ben, un des comptables, c'est le directeur parlementaire du budget.
Ouais.
Et lui évalue déjà que le déficit fédéral pourrait atteindre 113 milliards de dollars au Canada, là. 113 milliards. 26,7 milliards là, pour l'exercice qui se terminait le 31 mars. Il y a eu quand même des mesures déjà annoncées qui ont coûté plus de 5 milliards. PIB en baisse de 5%, c'est le calcul. Si ça se poursuit là, jusqu'en août, les mesures actuelles, ça coûterait 113 milliards au Canada. C'est une bonne facture. Quand
ça va nous prendre un autre baby boom pour réussir à payer tout ça.
On va payer la facture un bout de temps.
On te retrouve tantôt?
Oui, à tantôt.
Les effronter.
Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effronter.
Il y a une auditrice de Donnacona qui m'écrit pour parler de la solitude des personnes âgées de plus de 70 ans. Elle dit qu'en ce moment, effectivement, c'est excessivement difficile pour elle et son mari parce qu'en plus de devoir subir l'isolement, ils doivent subir les remarques de tout le monde. Elle dit on se fait traiter de non, on nous regarde comme si on avait la peste, on se fait dire restez chez vous, c'est à cause de vous qu'on est confinés, vous êtes des égoïstes. Vraiment, elle dit qu'elle et son mari se sentent encore plus isolée, elle invite les gens à faire preuve d'empathie. Ils doivent sortir, prendre des marches pour promener leurs chiens. Et elle dit, les gens ne nous saluent même plus dans la rue. Quand même, c'est quelque chose de devoir vivre ça. Et vraiment, on l'a dit là, à plusieurs reprises cette semaine, les personnes âgées ne sont pas plus susceptibles d'attraper la COVID ou de la transmettre. Ils sont plus susceptibles de développer des complications. Donc, vraiment, il faut arrêter de les stigmatiser. Au contraire, c'est le moment de les aider. On va tout de suite rejoindre notre collaboratrice Émilie Ouellette, parce que je le sais, on est nombreux là, à avoir un peu la même préoccupation. On a de la misère à faire la différence entre la semaine puis la fin de semaine. On ne sait plus trop quel jour on est, mais là, on le sait qu'on est vendredi. On s'en va vers le week-end avec les enfants. Si vous faites du télétravail, vos journées seront libérées. Vous pourrez vous consacrer avec votre famille entièrement. Et là, aujourd'hui, Émilie va essayer de nous donner des trucs un peu pour adapter notre confinement pour qu'on puisse, malgré tout ce qui se passe, profiter de notre fin de semaine. Bonjour, Émilie.
Allô, ça va?
Toi, ça va-tu bien? Parce que quand
ça
je t'ai parlé...
Mieux.
Oui, t'avais une petite voix cette semaine. T'as l'air d'aller mieux.
Oui, mais c'est pas encore tout à fait réglé, mais ça va, là, pour vrai. Y a pas de... J'ai vraiment juste perdu la voix, là, puis ça se retrouve, là, ça va bien.
Est-ce que c'est à force de crier après tes enfants, de rester tranquille dans la maison?
Exactement. Mais non. tout va bien, tout va bien. Mais oui, tu viens de le dire, en fait, je pense qu'on sait qu'on est là-dedans sur du long terme. Hein, je pense que tu en as parlé d'ailleurs aujourd'hui à l'émission, là, qu'est-ce que ça peut faire les effets du confinement. Là, fait que, tu sais, pour moi, ça reste important de dire, OK, il y a la fin de semaine, il y a la semaine, puis comme on s'en va progressivement vers quelque chose qui va durer longtemps, on peut se donner des petits trucs pour y aller étape par étape pour faire cette... Parce qu'on sait qu'il va y avoir un avant puis un après, là, cette pandémie-là, de toute façon. Fait qu'on regardera comment on fera ça à long terme, mais pour l'instant, c'est vendredi, il y a samedi, dimanche, comment on peut faire ça? Premièrement, il y a la sortie. Normalement, les fins de semaine, c'est là qu'on faisait des sorties. Évidemment, là, on peut pas sortir, c'est pas ça, là. Mais c'est l'occasion de dire, et si on sortait en dedans, dans notre maison? Là,
mais comment sais, on fait ça?
Je le sais, je suis beaucoup trop énervée pour toi.
Ben oui, calme-toi, Seigneur. T'as trop d'énergie.
Écoute, habille-toi chic, sors-les. Tu sais, ce que t'aurais mis pour aller au restaurant là, avec ton chum en fin de semaine ou ta blonde ou peu importe, tu te dis, on aurait été là, ça aurait été le fun. Fais-le dans ta maison. Pour vrai, ça se peut, c'est le fun.
Attends, mais ça, attends, je profite du moment où tu dis ça parce que je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait du bien, ça recrinque le moral, comme on dit en bon québécois. Et aussi, on peut en profiter pour encourager notre restauration locale. Pourquoi pas, si on peut pas aller au restaurant, amener le restaurant à la maison. Il y a plusieurs restaurants en ce moment qui se sont rabattus sur la livraison ou sur les commandes à emporter. Il y a de très, très bons restaurants dans différentes villes du Québec qui offrent des repas et ça nous permet de les encourager et ça nous permet vraiment de faire cette sortie à la maison dont tu nous parles.
Exactement. Tu mettras des petites chandelles, mais tu t'habilles chic, tu te grilles comme tu te grilles d'habitude.
Mais c'est quoi, on ligote les enfants? Qu'est-ce qu'on fait pendant des enfants pendant ce temps-là?
Si, tu peux inviter les enfants. Si,
on les invite, OK.
On les invite ou on se fait leur petite table pour enfants. Tu sais, des fois, on sépare les tables aussi à la maison, puis ça se fait aussi. Mais qu'ils s'habillent chez eux autres aussi, ça va être le fun. Bref, fait que ça, faites la sortie en dedans. Sinon, il y a aussi le spa. Hein, moi, des fois, la fin de semaine, c'était une journée pour dire, OK, là, il faut qu'on décroche puis qu'on relaxe. Faites un spa maison. OK, pour vrai, ça, c'est le temps de se mettre en robe de chambre, de lire des livres, d'aller dans un bain chaud, de mettre de la musique de spa, de se faire des massages. Pour vrai, OK? Puis pas le massage de style, genre, OK, là, je fais 10 minutes chaque. Non, faites-vous des longs massages. Faites avec de l'huile puis tout, là. Mettez des serviettes sur le lit, là, on s'en fout, ça sera pas taché.
Avec mais... extra ou sans extra, le massage?
Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat.
Mais il est confiné, il n'est pas là.
Mais au moins, t'es à la maison, tu peux faire ce que tu veux, avec consentement toujours. Voilà. Ouais. Après ça, il y a le cinéma. Ça aussi, c'est une grande sortie qu'on faisait des fois de temps en temps. Mais faites-vous un cinéma maison, puis là, je mets des petites variantes, OK?
Mais il me semble qu'on écoute déjà beaucoup de films, là.
Je le sais, mais là, tu le veux, l'ambiance cinéma.
Okay.
Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre, mettons, 2-3 ordis, parce qu'on regarde ça souvent sur des ordis aussi, dans chacune des pièces, parce que j'ai quand même une grande famille. Puis, on met 3 films à l'affiche ou 2 films à l'affiche.
Ah, ça, c'est une bonne idée.
C'est, tu vas où tu veux. Puis là, attention, des fois, je le fais même, on peut même le faire dans son char. OK? Moi, ça n'est arrivé.
Le ciné-parc?
Ben, genre de ciné-parc dans ton driveway, OK?
Faut que la Wi-Fi soit bonne.
Mais pour vrai, c'est super niaiseux, mais ça fait du bien au moral. Tu vas dans ton char, tu amènes ton popcorn, tes petites niaiseries, puis tu regardes le film, mets dans ton char. Puis tu sais, il fait pas trop froid, là. Tu sais, pour vrai, amène-toi une grosse couverte, fais-toi style ciné-parc, cinéma maison dans ton char, ça peut faire la job, ça peut être très le fun. Il y a aussi toutes les... Là, les jeux de société, ça aussi, on abuse un peu.
Ah, moi, j'ai fait une razzia de jeux de société, là, gros winner chez nous. Puis les bons vieux classiques, là, style Trouble, là, ça fonctionne à merveille.
Ah non, mais absolument, Skip Beau, nous, ça marche beaucoup aussi chez nous, une autre, ça dépend des âges des enfants aussi, si t'as des enfants, mais sinon, profite-en la fin de semaine pour faire un tournoi, faites des tournois, tu sais, ça c'est vraiment niaiseux, mais en 2 rounds, 3 rounds, n'importe quoi, puis, tu sais, incluez là-dedans, ça, les jeux vidéo peuvent embarquer aussi, tu sais, si vous avez un petit Mario Kart, là, c'est le fun de faire un style tournoi.
Mais tu vois, hier, on faisait un palmarès des jeux avec les personnes de Place Start, mais c'est tout quoi, on peut même, si on a avec d'autres personnes le même jeu de société, on peut même jouer ensemble la même partie en FaceTime avec, par exemple, Monopoly, on pourrait penser que 2 familles peuvent s'affronter avec leurs planches de jeu.
Complètement. Oui, tout à fait. Catégorie, clou, n'importe quoi, en tout cas, peu importe.
Puis là, vu que les enfants vont pas à l'école, moi, j'avoue, Émilie, en ce moment, que je donne beaucoup dans les jeux éducatifs, là, les jeux style génie en herbe, les questionnaires, là, ça, c'est assez le fun. Ça fait un peu.
Doctorat, là.
Exactement.
Mais oui, absolument. Et nous, on a les jeux de défi nature. Je ne sais pas si tu connais, mais ça, c'est un gros hit. C'est des jeux, en fait, de cartes dans lesquels tu te bats un peu à style bataille, sauf que tu apprends sur les animaux carnivores, les plantes, tout ça. Fait que c'est, oui, dans les styles éducatifs aussi. Mais faites-le en tournoi, faites-le avec du fun. Un samedi au complet, là, ça peut être bien le fun.
Puis si on peut se créer nos propres jeux de société aussi, tu nous l'avais dit l'autre fois, des heures et des heures de plaisir et de paix.
complètement des heures de paye d'autonomie. Il y a aussi toute la technologie qui vient à notre enfant. Tu as parlé de FaceTime, mais justement, des 5 à 7 virtuels. Ça, on a fait ça. On est une couple d'amis, de famille, on a fait ça. Qu'on passe par Skype, FaceTime, Zoom, n'importe. Il y en a pour vrai. Il y a une grande panoplie qui s'offre là, avec des bonnes. Il y a des bons forfaits gratuits aussi que tu peux utiliser. Puis là, tu peux te retrouver à plusieurs familles ou à plusieurs couples, amis, peu importe, à faire un FaceTime en même temps. Genre, on est ensemble en même temps. Fait que prenez votre verre de vin ensemble. Donnez-vous une heure. Faites-vous un petit 5 à 7. Pour vrai, ça a l'air vraiment. Ça a l'air, au début, tu te dis, ah, c'est comme pas facile parce qu'on est tous devant notre écran, mais pour vrai, je veux dire, quand c'est tes amis, la complicité revient, les niaiseries arrivent, puis rapidement, ça fait juste du bien au moral.
Mais moi, je l'ai fait hier, puis ça fait énormément de bien. Donc, on va faire ça en fin de semaine, Émilie Ouellet. On te retrouve la semaine prochaine. Merci pour tous ces bons conseils. Je retiens ton ciné-parc, c'est quand même assez original. Je pense que je vais l'essayer. Il fait très, très beau. J'aimerais en profiter pour remercier Achille Monnet à la mise en onde, Frédéric Moccol à la recherche. Tout le monde travaille très fort ici à Cube pour vous tenir au courant, vous offrir les meilleurs contenus aussi. Et j'en profite pour vous dire que juste après moi, Mario Dumont et Vincent Dessereau seront là. Ils vont prendre des appels, ils vont répondre à vos questions, notamment sur les nouvelles mesures économiques annoncées par les deux paliers de gouvernement. Là, je vous souhaite un bon week-end. On essaye d'en profiter. On essaye de pas trop déprimer. On est chanceux. Il fait beau. Organisons-nous des activités. Allons prendre des marches à 2 mètres de distance. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi.